Inaugurée par Benjamin Stora, on s'interroge sur les chocs de mémoire, en particulier. Lors de la dernière conférence à laquelle certains d'entre vous ont peut-être assisté, il était question de la rétroaction de la guerre d'Algérie dans la mémoire française, à l'occasion de l'apparition du Mémoire dangereuse de Benjamin Stora et d'Alexis Gély. Cette fois-ci, on va plutôt s'intéresser, non pas à la rétroaction, mais à l'occultation de la mémoire indochinoise avec nos invités. Safoï Papana Anton, bienvenue donc à la Cité des Migrations. Vous êtes la réalisatrice du documentaire que nous venons de voir, que vous pourrez d'ailleurs, chers amis, vous procurer, Hmong Memory and Crossroads. J'ai le DVD dans la main, mais je crois que vous pourrez vous le procurer très facilement en venant sur le site de la Cité des Migrations. Avec nous aussi, Françoise Vergès, bienvenue à la Cité des Migrations. On est très heureux de vous accueillir. Vous êtes politologue, vos travaux sont évidemment connus, vous avez consacré de nombreux livres à l'esclavage colonial. Vous êtes titulaire de la chaire Global South, au Collège d'études mondiales de la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme. Et vous connaissez évidemment très bien cette occultation de la mémoire Hmong à laquelle nous allons consacrer maintenant cette discussion. Tout à l'heure, vous pourrez poser vos questions à nos invités. On attend le troisième qui va venir. Et vous pourrez bien sûr aussi demander à ne pas être filmé. Il faut dans ces cas-là vous manifester car nous avons des partenaires qui filment toutes ces rencontres. Et nous attendons Philippe Pécard, mais je vais peut-être vous poser quand même à chacune la première question, qui est directeur de l'Institut international d'études asiatiques de l'Université de l'Aide aux Pays-Bas. Bienvenue à vous, voilà, on vous salue. Merci d'être là avec nous. Alors peut-être pour commencer cette discussion, on va parler de votre film bien sûr, mais aussi peut-être élargir la perspective. Comment est-ce que d'après vous, on peut expliquer la force de cette occultation, de ce déni au fond qui pèse sur l'histoire des Hmong? Est-ce que là, commençons tout simplement par un élément intéressant, est-ce que le lâchage, la trahison des Hmong par la France à l'issue de la guerre d'Indochine y est d'après vous pour quelque chose? Alors peut-être Safoï, un mot là-dessus.
Tout d'abord, merci à la Cité des Migrations, aux organisateurs de l'événement. Merci à vous d'être là et je remercie aussi nos partenaires dans ce projet-là dont beaucoup sont ici présents. Certains d'entre eux ont fait le déplacement pour être avec nous ce soir. Donc, merci beaucoup. Moi, je ne suis pas historienne de formation, donc je ne peux pas apporter un regard historique, un regard politique sur cette question de comment expliquer l'occultation de cette mémoire. En fait, quand je suis partie... Quand j'ai décidé de m'engager dans ce projet-là, c'était parce que j'ignorais cette mémoire, j'ignorais cette histoire-là, presque, la mémoire Hmong. Donc pour moi, c'était un devoir de chercher comment ce chapitre-là de l'histoire coloniale française, quel est le lien avec l'histoire de par exemple, de l'Algérie, de... La société coloniale algérienne, par exemple. Moi, je viens je suis d'origine marocaine, donc l'histoire coloniale en Afrique du Nord m'est plus familière que l'histoire coloniale dans le contexte d'Indochine. Donc, quand je suis partie, quand j'ai commencé à enquêter sur l'histoire des supplétifs maghrébins, sur les tirailleurs sénégalais, c'est alors que j'ai fait la découverte des supplétifs Hmong. J'étais consciente qu'il y en avait aussi ceux qui étaient d'origine vietnamienne, cambodgienne, mais laotienne, mais Hmong. Donc ça, pour moi, était une vraie découverte. Voilà, bref, donc je me positionne plutôt du côté de quelqu'un qui cherche à connaître et pas de quelqu'un qui détient déjà une certaine expertise sur le sujet.
On nous entend. Voilà. En tout cas, votre documentaire est très parlant puisqu'il fait, selon une vocation de l'histoire, selon Michelet, il fait parler les silences d'une certaine histoire. Cette histoire, elle est en partie française et c'est évidemment pour ça qu'on a voulu bâtir cette discussion à partir des très fortes images que vous nous donnez. Il y a aussi, bien sûr, on y reviendra dans le cours de cette conversation, il y a un trajet de réparation mémorielle à laquelle vous procédez. Ça commence par une mémoire éclatée et à la fin, en quelque sorte, il y a une sorte de réparation symbolique. C'est de très belles images, bien sûr, sur lesquelles nous reviendrons au cours de cette conversation. Alors j'allais oublier de vous dire, de vous transmettre les vives excuses du président de cet établissement, Benjamin Stora, qui devait participer à notre discussion, mais qui malheureusement, pour des circonstances totalement indépendantes de sa volonté, ne pourra pas se joindre à nous. Il en est bien désolé et il me transmet la charge de l'excuser auprès de vous. On en est tout à fait désolé. Les bonnes habitudes reprendront à partir du 13 avril, puisqu'il y aura une nouvelle conférence dans ce cycle consacrée à la question de l'école et il y participera. Donc, même question peut-être, Françoise Vergès, quelles sont vos pistes d'explication, vous qui avez travaillé sur le sujet, sur la puissance de cette occultation? Est-ce que c'est aussi parce que, comme le suggère une des intervenantes du film, au fond, les Hmongs ont toujours été perçus, dans la mémoire française notamment, comme une ethnie et pas comme un peuple avec son histoire complexe, ses références culturelles, peut-être aussi même son opposition aux colonisateurs. D'où ça vient cette occultation?
Je pense déjà la place de la guerre contre l'Indochine n'a pas du tout la même place, même dans le récit de la décolonisation et de la fin de l'Empire colonial français, que pratiquement la guerre d'Algérie prend toute la place. On pourrait penser même aussi à la guerre au Cameroun, on n'en sait pratiquement rien, où les mémoires de l'insurrection malgache sont aussi... Donc, de toute façon, il y a déjà eu peut-être sans doute cela. Il y a aussi, je pense, un certain orientalisme qui continue dans l'historiographie française, c'est-à-dire, si on regarde cette partie du monde, c'est avec un regard qui exotise toujours et qui orientalise. Et la troisième chose, c'est que de toute façon, l'État français a du mal à aussi avec la question des supplétifs, des personnes qui ont été utilisées et qu'on laisse derrière.
Disons que dans notre époque, entre guillemets, sans tabou, prétendons, ça c'est un vrai tabou, pour le coup, ça reste un tabou
ça de la mémoire française. Ça reste assez, on ne sait pas très bien qu'en faire, et puis de toute façon, les récits s'ordonnent, les vainqueurs, les vaincus. Et ces groupes, on ne sait pas très bien où les placer dans cette configuration. L'épopée des soldats trahis, comme raconte un des anciens militaires français, ça rentre dans un récit, ça rentre dans une espèce de narration. Là, c'est beaucoup plus difficile. Donc je pense que tout ça peut expliquer, en tout cas donc pour les Hmongs, et puis une certaine confusion quand il y a des personnes qui disent oh, de toute façon, les Asiatiques, il y a une espèce de confusion, on les confond tous. Je pense qu'il y a ça aussi. Je veux dire, en France, c'est un peu. Tout ça, c'est un peu pareil. Donc, il n'y a pas de distinction non plus qui est faite. Les peuples n'existent pas. Il y a un truc massif, comme une massification à appeler des Asiatiques.
Une massification, peut-être une réification, ça en reviendra. Il y a une intervenante du film, maman, qui dit l'histoire Hmong est très riche, mais où est-elle? Vous posez, vous aussi, cette question comme historienne et comme politologue. Vous avez le sentiment qu'au fond, cette histoire reste, malgré le beau documentaire de Safoy, mais reste une histoire éclatée, une histoire en bris, une histoire en miettes.
Je pense c'est peut-être l'approche qu'on a, parce qu'en fait, les éléments aussi peuvent être là. Il faut aussi apprendre à chercher. Les archives sont évidemment les archives écrites, mais c'est aussi autant les chants, la poésie, la langue, les danses, s'intéresser à d'autres formes d'archives. On n'a pas simplement, et pas évidemment que l'archive coloniale, et s'intéresser de toute façon. Donc je pense que c'est plutôt une question de méthode et de changer les méthodes d'approcher les histoires. d'apprendre à les élargir. Et puis là, en plus, ce qui est intéressant avec cette diaspora, c'est qu'elle se place dans plusieurs endroits du monde. Et donc, ça signifie aussi les histoires ne sont plus nationales. Elles ne sont pas... Donc, il faut dénationaliser l'histoire.
On pourrait presque voir le documentaire que nous venons de regarder comme une contribution à une forme de world history, c'est-à-dire que c'est un sujet de l'histoire mondiale, cette affaire Hmong, et de ce point de vue-là, les images que nous montre Savoy construisent cette histoire. C'est comme si c'était une histoire en train de se construire.
C'est une histoire, et puis c'est une histoire, bon, comme on dit, from below. Alors évidemment, en bas, bas en français, ça fait.
Venons de la base. Venons
ça
de la
fait
base.
Pas très. Mais enfin, donc vraiment, et ce qui m'intéresse aussi, c'est justement les interactions entre vraiment l'histoire personnelle, les histoires intimes et les liens avec la grande histoire. Et comment cette articulation constante qu'il faut travailler d'essayer de se placer au bon endroit par rapport, en respectant les voix des individus, sans oublier le fait qu'il y a quand même, quand je dis la grande histoire, c'est pas pour donner une hiérarchie, c'est des forces qui sont là et qui, elles, sont en action et vont balayer les choses sur leur chemin.
Alors, dans un instant, après avoir entendu, bien sûr, aussi la première analyse de Philippe Pécam, on fera un peu de géographie des communautés, parce que c'est un aspect très important du film, c'est qu'il y a un éclatement diasporique planétaire des Hmong, donc il faut aussi qu'on évoque cet aspect. Grosse communauté, bien sûr, on l'a vu aux États-Unis, mais en France aussi, et notamment dans la France amazonienne, c'est-à-dire la Guyane. Mais un mot peut-être encore sur cet aspect-là d'une histoire qui se fait par la mémoire. L'un des personnages, je ne sais plus lequel, je crois que c'est le narrateur, dit à un moment qu'il se sent tenu par un devoir de mémoire. Est-ce que le devoir de mémoire peut contribuer à construire l'histoire ?
Très certainement pour ces histoires qui ont été marginalisées, les cas, c'est toujours les personnes concernées qui les font connaître, qui se créent en association, qui poussent le musée à faire un événement. Donc de toute façon, oui. Et la mémoire, cette espèce de débat mémoire-histoire est parfois complètement un peu idiot, si vous voulez, parce que la mémoire, c'est pas que d'un côté subjectif, de l'autre côté, ça serait objectif. C'est par la mémoire, c'est très souvent les groupes minorés, c'est une manière de dire l'histoire. Et il faut écouter, c'est pas simplement « Ah, je me souviens », c'est aussi une autre écriture de l'histoire. Il y a d'autres mots, il y a d'autres vocabulaires. Et c'est donc aussi faire attention, respecter cette manière d'écrire l'histoire.
Alors, je ne peux pas résister à la tentation de vous poser une question que nos amis doivent se poser d'ores et déjà. Est-ce que cette micro-histoire du peuple Hmong dans sa condition diasporique, d'immigré, est-ce que cette micro-histoire fracture une partie du récit des vainqueurs, pour parler comme Walter Benjamin?
Oui, bien sûr. De toute façon, que ce soit les récits, le récit national français, ou les récits même nationaux post-indépendants, ont tendance à reconstruire un récit. On a par exemple, il y a eu tout un groupe d'historiens indiens qui se sont appelés Subaltern Studies, pour justement aussi contester pour le fait de dire, mais il y a une épopée de l'indépendance indienne, c'est Nehru et Gandhi, et pendant ce temps-là, on oublie toutes les révoltes de paysans, tous les mouvements qui ont contribué, et donc de nouveau, effectivement, les voix des autres personnes, parce que les récits étatiques et les récits nationaux ont tendance, en général, à effacer les voix, d'autres voix, à faire une voix, un seul héros, un seul peuple, une seule langue, un seul territoire.
Les voix venues de from below, comme voilà. Vous dites, ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Françoise Vergès. Merci, Savoy. On va reparler de toute façon avec vous dans un instant. Alors, comment vous avez vu ces images, justement, Philippe Pécam? Vous êtes d'accord avec la lecture qu'ont fait nos amis? C'est enfin le peuple from below qui arrive à se mettre en avant ou à être mis en avant?
Oui, tout à fait.
Je crois que le micro marche, ouais.
Ok. J'ai deux expériences qui se croisent, dans le sens où d'un côté je suis historien sur cette région du monde, mais pas en particulier sur les Hmong.
On l'a dit en vous présentant à l'université de Leyde aux Pays-Bas.
Mais bon, j'ai travaillé sur le Vietnam d'époque coloniale, quoi. Mais en même temps, j'ai vécu pas mal de temps au Vietnam et au Cambodge. Donc quelque part, ma première réaction, elle est d'abord du côté de l'histoire intime dont on parlait et que le film, à mon avis, présente bien, c'est au-delà même de l'expérience des Hmong, je trouve que c'est une expérience, c'est une, un récit que l'on, quand on vit dans, en Indochine, enfin dans les pays de la région, que l'on, auquel on est confronté en permanence. Parmi les Vietnamiens, parmi les Cambodgiens, c'est cet éclatement, cette souffrance vraiment qui s'est, comment dire, qui s'est accomplie, pas seulement par rapport à la guerre elle-même, mais par rapport aux familles déchirées, les guerres civiles, etc. C'est quelque chose, et cet éclatement géographique, etc., c'est quelque chose que, qui est toujours très, très vivace. Je pense que beaucoup de gens ont cette expérience.
Et vous avez aimé le film de Safoy Babana Anton, parce que c'est vrai que c'est un film qui montre aussi une reconquête mémorielle, ou une, peut-être même une réparation mémorielle, hein, au travers de la grande pérégrination que, qu'elle lui fait faire. Il récupère quelque chose du passé occulté, de l'histoire occultée de sa propre famille.
Tout à fait, mais il y a aussi beaucoup d'autres histoires comme ça qui malheureusement ne sont pas encore susceptibles d'être à ce point reconnectées, recollées comme celle-ci. Et c'est, à mon avis, le film est très important pour la mémoire des Hmong en particulier. Mais je pense par exemple à plein d'autres groupes montagnards, ce qu'on appelle les montagnards, les Jarai, les Pnom, et d'autres groupes aussi qui eux aussi ont eu la même expérience et sont toujours en fait en quête d'une certaine reconnaissance et même d'une espèce de lecture de leur propre itinéraire et de leur propre souffrance.
Et alors, comme vous dirigez un institut d'études asiatiques dans une université donc néerlandaise, est-ce que vous avez l'impression que le film de Safoy, à sa façon, hein, mais bouscule, interroge, insécurise la mémoire officielle et la manière dont l'histoire de cette région est écrite actuellement?
Tout à fait, mais en tant que directeur d'un institut académique, alors dans ce cas-là, c'est vrai que ce qui est important d'abord de savoir, à mon avis, c'est important aussi de se poser la question, en tant qu'historien, d'où viennent toutes ces souffrances, quelles sont les origines en départ? Parce que il y a la guerre, il y a les traumatismes liés à la guerre, mais il y a aussi le fait colonial. Moi j'ai étudié sur les années 20-30, donc c'est avant tout ça. Mais en fait, déjà, les racines de toutes ces souffrances, tous ces problèmes et tous ces éléments d'histoire qui ne sont toujours pas complètement connus et partagés, elles s'inscrivent déjà dans le cadre même, dans le contexte même colonial. Tout commence, je veux dire, en termes de grande histoire, comme François disait, c'est les empires, les États, la logique des empires et des États qui se fait généralement contre la logique des individus. Et dans cette région du monde, les Hmong sont une bonne, à mon avis, expression de ces souffrances, dans le sens où eux-mêmes se sont trouvés d'abord aux prises entre les logiques de l'Empire chinois, ils se sont retrouvés dans l'Indochine actuelle, et eux, et de nouveau, ils ont été, utilisés, instrumentalisés à plusieurs périodes de l'histoire, par les Français, l'opium, par exemple.
On ne va pas faire que le procès de la France, on ne va pas faire, comme on dit aujourd'hui, du French bashing, mais tout de même, ça apparaît dans le film, il y a eu une instrumentation par l'état-major français. Quelle est la place justement de cette manipulation dans la mémoire Hmong contemporaine, d'après vous?
Bon, d'abord, je vous dis, je ne suis pas spécialiste des Hmong, mais à mon avis, il y a beaucoup d'éléments. D'abord, l'élément de l'opium, qui est à mon avis fondamental, qui est à la base de toutes ces traces.
En deux mots, ils étaient des vendeurs d'opium. Hein.
Ils étaient producteurs, ils faisaient pousser du pavot, mais ils ont été encouragés. Il y a très longtemps, par les Chinois, quand la Chine était elle-même envahie d'opium qui venait par les Anglais, et les guerres de l'opium qui ont abouti en 1842 aux premiers traités inégaux contre la Chine, et qui a fait que l'Empire chinois a voulu développer, encourager la production d'opium pour contrer ces importations anglaises qui coûtaient à la Chine beaucoup d'or et de richesses. Du coup, quand les Français et les Anglais sont arrivés dans la région, eux aussi se sont intéressés à la production d'opium. Et donc chaque fois, les Hmong se sont retrouvés au milieu de cette logique qui les dépassait de loin, et qui fait que en l'occurrence, pendant toute la période d'Indochine française, l'opium contribue pour 10 à 15% du budget colonial. C'est important, c'est très important. Et au moment de la Vichy, l'occupation de la France par l'Allemagne et de l'occupation de l'Indochine par les Japonais, on ne peut plus faire du commerce de l'opium qui vient au départ, l'Indochine française importait son opium en Iran. Et donc les Français ont commencé à encourager de manière systématique pour produire de manière industrielle, quasiment industrielle, de l'opium pour continuer à pomper de l'argent au travers des taxes. Et la plupart des consommateurs d'opium étaient vietnamiens. Donc tout est lié, ou chinois. Donc il y avait tout un business dedans. Et donc les Hmong se trouvent au milieu de cette chaîne et qui va être renforcée pendant la guerre d'Indochine, en l'occurrence, parce qu'il y avait toujours des problèmes, si je me rappelle bien, des problèmes pour au Parlement français, à cause en particulier d'une opposition contre la guerre d'Indochine, du côté des communistes et de certains socialistes. Et on ne pouvait pas obtenir assez de financement pour cette guerre. Donc, il fallait trouver de l'argent pour financer la guerre. Il y avait tout un système qui s'est construit avec les Hmongs qui produisaient le pavot, qui était acheminé dans les villes d'Indochine et qui était distribué avec un système géré par la mafia chinoise, par des groupes chinois, et avec l'argent qui était soutiré pour acheter des armes sans passer par le contrôle parlementaire en France. Et c'est ce qui a permis pendant longtemps de continuer cette sale guerre. Et ça a continué avec les Américains. Et de même du côté vietnamien, du côté vietnamien, du côté communiste, eux-mêmes qui ont toujours dit que jamais ils ne toucheraient à l'opium, etc., eux-mêmes contribuaient à produire de l'opium et encourager les Hmong à produire de l'opium. Donc il y avait aussi une autre partie de la population Hmong qui, elle, était dans l'autre camp. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué. La morale de tout ça, c'est que quand un petit groupe, une petite communauté comme les Hmong se trouve au milieu de logiques qui les dépassent tellement qu'à la fin, c'est bien sûr les grands...
Alors, avant d'entendre à nouveau Safoy, mais qu'est-ce que vous pensez de toute la partie du film qui est plutôt vers la fin, hein, où il y a cette espèce de récupération de la mémoire, d'une partie de la mémoire française, hein, au fond, elle interroge ce choc de mémoire ou ce déni de mémoire concernant le sort fait aux supplétifs dont on sait qu'ils ont été, c'est vrai, abandonnés par les Français à partir du moment où ils n'étaient plus utiles.
Oui, bon, alors ça, c'est les problèmes liés à la guerre elle-même.
Oui.
Et là, c'est clair que je pense que tous les intervenants sont de bonne foi. Je veux dire, en l'occurrence, c'était pas facile non plus pour ces officiers ou ces militaires français qui ont été eux-mêmes parachutés là-bas et de tout d'un coup d'avoir quelque part à payer l'addition de toute un siècle d'aventure coloniale là-bas. Donc, c'est les Français, là, à l'époque, pendant cette guerre-là, à mon avis, je ne voudrais pas les incriminer en particulier. Je parle pas forcément des hommes politiques et de l'État, de la logique de l'État. Mais,
ceux qui étaient engagés au sol, en quelque sorte, vous voulez dire.
Voilà, exactement.
Sur le terrain. Merci beaucoup. On va revenir avec d'autres questions après, Françoise Pagès, sur cette question la plus épineuse de la mémoire française.
Rappelons que c'est une armée professionnelle qui va en Indochine. C'est une armée où il y a énormément de personnes de l'Empire colonial. Donc c'est aussi, c'est une armée, n'oublions pas aussi, que c'est une armée où beaucoup des généraux qui vont subir la défaite seront ceux qui seront envoyés en Algérie pour faire la guerre qu'ils feront. Donc il y a aussi une histoire de cette armée qui quand même sert une politique de destruction, je veux dire, et qui ceux qui arrivent, quand ils arrivent en Algérie, ils se disent on ne va pas subir la défaite qu'on a subie. Donc il y a aussi un lien dans cette armée, et ils sont peut-être, ils n'ont pas pu sauver, mais ce que je veux dire, c'est que aussi, on ne va pas non plus transformer l'armée française, en tout cas les autorités de l'armée française, en petits innocents. Ils savaient aussi ce qu'ils faisaient, et ils faisaient quand même une guerre en défendant des intérêts qui n'étaient pas les intérêts de la France, qui étaient les intérêts d'une certaine France, d'une France qui était coloniale, qui était la France aussi des grands producteurs de caoutchouc, qui était la France des grandes plantations. Et ce n'est pas pour dire que ce qui a été ensuite toute cette La guerre, comme plusieurs personnes le disent, il y a quelque chose, il y a une logique de destruction, et le peuple hmong a été pris dans cette destruction. Donc je ne veux pas. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, il y a aussi une responsabilité de l'armée française qui quand même, a produit aussi cette guerre.
Et vous avez l'impression aujourd'hui, Saint-Foy, que les mentalités progressent, que les mémoires se décloisonnent, qu'une prise de conscience est à l'œuvre. Votre film semble l'attester, en témoigner.
Oui, je partage cet avis. L'expérience de participer à la co-création de ce film, parce que j'aimerais insister dessus, le film, autant au niveau de la création, au niveau du contenu, c'est-à-dire les individus interviewés qui avaient partagé leur récit, qui font ensemble des micro-récits, donc le terme employé tout à l'heure, il s'agit très bien de micro-récits, c'est-à-dire des récits produits au niveau individuel, mais qui se mettent en relation avec une quantité.
Avec la grande histoire, oui, avec l'histoire universelle, comme on disait à l'époque de Hegel.
Mais aussi avec d'autres petits récits, d'autres micro-récits. Et ensemble, ils singularisent, donc j'aime employer le mot singulariser l'histoire, c'est-à-dire écrire l'histoire au singulier, mais au pluriel aussi, globaliser l'histoire, humaniser l'histoire.
Voilà, donner des visages aussi à ce peuple qui est connu souvent simplement de nom. Hein. Beaucoup de Français, ils savent très vaguement qui sont les Hmongs, mais ils seraient absolument incapables d'en citer un seul, de citer une seule personnalité représentative des Hmongs. Hein. Donc ça, c'est très, la nomination des visages, c'est quelque chose de très important dans votre film. Alors on peut peut-être évoquer, avant de faire un peu un tour du monde, hein, on peut peut-être évoquer la réfraction de cette mémoire dans la mémoire américaine, parce que c'est un des aspects du film. Hein. Vous êtes allé aux États-Unis, on vous voit, hein, enfin on voit les
ouais,
les...
C'est là où j'ai...
C'est là où vous habitez, et il y a notamment des scènes au Wisconsin. Est-ce qu'aux États-Unis, vous avez le sentiment qu'il y a plus d'avancées dans la société civile américaine concernant la question Hmong que dans la société civile française?
Toujours à partir de cette expérience,
bien sûr,
de rencontre avec des membres de la communauté Hmong, autant aux États-Unis qu'en France. Il me paraît que cette question est essentielle, donc la question de la mémoire dans la construction de l'identité diasporique. Écrire la mémoire est intégrale au processus de construction d'identité américaine pour ces communautés Hmong. C'est un enjeu important, et ce que moi j'ai pu observer, encore une fois, c'est que cette mémoire elle-même, elle est plurielle, donc de l'intérieur. Donc il n'y a pas de mémoire Hmong au singulier. Et c'est bien, c'est une mémoire complexe et elle nous rappelle aussi la complexité des conditions historiques, du contexte historique particulier dans lequel ce déplacement forcé a été fait. Donc la mémoire n'est pas attachée à un territoire, ce qui m'a paru dans cette expérience-là. La mémoire est portée par ces corps, par ces individus qui avaient traversé des frontières. Et donc avec eux, ils introduisent de nouvelles visions, de nouvelles parcelles de l'histoire dans les nouveaux pays qui les accueillent.
Alors avant que Philippe et Françoise vous répondent, mais pourquoi vous n'êtes pas allé en Guyane ? La Guyane, donc, c'est un endroit où il y a beaucoup de Hmongs qui ont trouvé refuge. Hein. On les estime à 4000 ou 5000 peut-être, hein, sur une population d'un peu moins de 200 000 habitants, c'est beaucoup. Pourquoi ne pas vous être rendu en Guyane ?
La raison, elle est décevoir. Malheureusement, dans le monde de la création cinématographique, le budget, le financement de projets...
Vous êtes obligé de faire des choix, vous pouvez aller partout.
En fait, je pense un de nos partenaires est peut-être ici toujours, Karim Bensmaël. Est-ce qu'il est là? Oui. Peut-être il est parti, mais c'était une composante, enfin, ça faisait partie de la conception initiale du projet, on voulait bien faire le parcours aussi vers la Guyane.
On n'avait pas assez d'argent pour aller à Cayenne, on avait.
Malheureusement. Voilà. Donc, heureusement que Philippe Rostand avait fait quelque chose hier. Donc, hier, Philippe Rostand avait réalisé un documentaire qui présente la perspective des membres des Guyanes, leur déplacement, mais surtout leur adaptation, leur contribution au développement économique, à la renaissance économique.
Oui, parce que ça, on peut en dire un mot avant que Philippe et Françoise vous répondent, hein, sur la question plus globale de la mémoire, mais en Guyane, donc, il y a une quarantaine d'années, il y avait une population assez peu importante, il y avait 55 ou 60 000 habitants, et il y a eu un choix français de faciliter l'installation des Hmongs qui voulaient venir en Guyane pour participer au développement économique de ce département.
Et tout à fait. Je pense que les Hmongs, là où ils vont, ils n'ont pas de mal. Si vous vous rappelez, il y avait des images dans la partie américaine du film où on voit un sénateur, on voit des hommes, enfin, on voit une historienne Hmong, donc la Mainali, une historienne, c'est une universitaire. Donc, les profils des personnages qui avaient partagé leur témoignage avec nous est une confirmation d'une intégration réussie. Sauf qu'à leurs yeux, il reste encore du travail à faire en ce qui concerne la reconnaissance officielle de cette mémoire. Donc, la construction de ces mémoriaux, leur inscription dans l'espace public, ça a été pour moi un côté très important de cette enquête. C'est-à-dire, l'histoire, elle est spatialisée, donc on voit que l'histoire devient palpable, matérielle, sensible. La construction de mémoire fait l'objet de cette réflexion historique et réflexion identitaire. Donc ils sont ancrés, ils sont incrustés dans l'espace public américain et français. Mais du même coup, on assiste aussi, en plus de la spatialisation de l'histoire, aussi à l'historicisation de l'espace. Donc on voit que Liat Chouani, le personnage principal, donc pour revenir sur son passé familial et le passé de son peuple, donc il se déplace. Donc il y a là un déplacement au sens propre, au sens figuré. Donc l'histoire devient un effort qui nécessite un déplacement. Donc le déplacement physique, mais le déplacement du regard sur cette histoire.
Le déplacement est à prendre dans les deux sens du terme, vous le dites d'ailleurs. Hein. Vous dites ça fait une spatialisation de l'histoire, historicisation de l'espace, c'est un double processus. C'est ça le secret de cette espèce de fracturation, non pas hydraulique, mais de fracturation du récit militaire, de l'histoire officielle.
Oui, et il y a aussi peut-être une autre dimension, à mon avis, qui est intéressante à explorer. Et je comprends la logique du film, c'est véritablement au travers de cet itinéraire de recherche personnelle, de reconstituer, renouer le fil de toute la tragédie Hmong depuis ces événements. De même, je pense que même au travers de la... la propagande officielle ou la projection officielle du côté des vainqueurs, c'est-à-dire du Vietnam communiste ou du Laos communiste actuel, où on utilise aussi les Hmongs et toutes les minorités soi-disant comme étant en fait faisant partie d'une collectivité harmonieuse, etc. On s'en rend bien compte que ils peuvent, dans ce cadre-là lui-même, ils peuvent être aussi, ils sont aussi victimes quelque part, et toujours instrumentalisés. Et ça fait penser au fait que les Hmongs, comme un certain nombre de groupes, qui ne sont pas seulement des groupes ethniques, ou ça peut être des groupes religieux, ou même des gens qui pensent un peu différemment dans le Vietnam actuel, ou Laos, ou au Cambodge. Il y a beaucoup de ces histoires aussi qui sont non dites et il y a aussi cette dimension un peu ethnographique sur le fait que les gens qui vivent dans les montagnes vivent dans une autre logique. Les Hmongs sont pas strictement Laos ou Laotien ou strictement Vietnamien, ils font partie aussi de cette communauté Hmong, et votre film montre, à mon avis, très bien le fait que c'est la famille qui est vraiment le vecteur essentiel qui tient, et ce sentiment de généalogie et d'appartenance au groupe Hmong qui se fait au travers de sa généalogie personnelle et par rapport aux ancêtres, etc., et aux descendants. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi, une réalité qui est intéressante à explorer, dans le sens où le projet d'État-nation centralisé, uniformisateur, etc.
C'est combien pour
au Vietnam, ou dans cette région du monde, comme dans beaucoup de régions, ne convient pas. Donc là, on a un groupe qui sont aux marges, ces montagnes qui sont vraiment, qui traversent la Chine, de l'Indochine, mais aussi l'Indochine elle-même, ce sont des régions imparfaites, je veux dire, dans le sens où les États-nations, la logique des États-nations ne marche pas.
Justement, avant que Françoise Vergès nous donne son sentiment là-dessus, est-ce que, de ce point de vue-là, les mots ne sont pas à prendre comme une sorte d'instrument pour écrire une autre histoire que l'histoire officielle des États et de leurs relations, de leurs interrelations? Visiblement, ils sont par-delà l'étatique, si vous voulez. Hein. Donc, est-ce qu'ils n'aident pas à appréhender l'histoire d'un point de vue qui ne soit pas seulement state-national?
Tout à fait. Et je pense que là aussi, il y a un travail qui n'est pas, à mon avis, qui m'intéresse un peu moins pour ce qui se concerne de la France ou des États-Unis, mais du côté du Vietnam, du Laos ou du Cambodge actuel, un travail pour, comment dire, reconnaître la diversité de ces peuples, de ces États, qui ne sont pas seulement la projection d'une espèce d'une unité factice, que ce soit sous le couvert d'un discours communiste ou néo-communiste actuel ou nationaliste, mais en fait le fait que ce sont des sociétés très complexes et très diverses, et la diversité, à mon avis, dans ce cas-là, démontre à quel point la limite du projet, l'État-nation, etc.
Merci beaucoup, Philippe Pégard. Françoise, vous êtes d'accord avec lui, là.
Oui, alors je voulais juste revenir sur une chose. Je vais peut-être dire quelque chose qui est un peu choqué. Je ne suis pas systématiquement, moi, pour les stèles et les monuments et les mémoriaux. Il y a aussi une façon de faire des stèles qui deviennent des tombes. C'est une pierre comme une pierre tombale. On la met.
Vous trouvez que le mémorial de Fréjus, il ressemble à une tombe?
Non, mais ça peut le devenir symboliquement si ce n'est pas accompagné d'éducation. C'est-à-dire que ça ne rentre pas dans l'enseignement, dans l'éducation à l'école, dans le fait qu'effectivement dans les musées, ça rentre dans les musées, ça devient des sujets au théâtre, au cinéma, dans les performances. Du coup, si vous voulez, moi je peux passer devant cette pierre et ne pas me sentir concernée. Comment ce monument, ce mémorial de cette stèle, entre vraiment dans l'espace, autant que du coup il m'interpelle moi, qui n'ai pas de relation directe avec cette mémoire. C'est-à-dire, sinon, chacun va avoir sa stèle, et qu'est-ce qui va construire le fait qu'il y a une mémoire, qu'il y a des mémoires singulières, et que ces mémoires singulières entrent en conversation pour construire ensuite des choses à partager. C'est-à-dire, ce n'est pas mon histoire, ça ne le sera jamais, mais ça me concerne. Et donc, le monument, le mémorial doit être là pour que ça me concerne. Donc, c'était juste ça que je voulais dire. Sur la question, oui, je pense que la question de refaire les récits, je pense que dès qu'un récit devient trop national, il ne peut qu'effacer l'histoire des minorités, des femmes aussi d'ailleurs, hein, n'oublions pas, d'ouvriers, de paysans. Je veux dire, il efface, il construit une idée de ce que c'est que la nation qui est totalement illusoire.
Vous avez l'impression qu'aux États-Unis, on arrive mieux à articuler le récit national avec les micro-récits qu'évoquait Safoy.
Les micro-récits, ils ont pu entrer à l'université à cause des luttes. Je veux dire, il n'y a pas eu de département d'études africaines-américaines ou latino-américaines ou asiatiques qui se sont faites parce que tout d'un coup, le président de l'université s'est dit « Oh là là, il faut, on avait oublié, maintenant on va le faire. »
C'est le résultat d'un rapport de force, au sein du monde académique.
Voilà. Les étudiants ont été exigés, et puis il y a eu des livres, il y a eu des productions qui ont poussé à ça. Donc il y a aussi, c'est venu de nouveau d'en bas, et la question, donc ça a questionné la manière d'approcher les choses, c'est-à-dire aussi, c'était plus l'Asie, l'Afrique, enfin Philippe connaît ça très bien, cette division par région civilisationnelle, et de montrer que les histoires sont globales, sont mondiales, que ce qui se passe au Vietnam on le sait très bien, parce que du coup, ça a eu des effets au Laos, ça a eu des effets au Cambodge, ça a eu des effets en Thaïlande, et puis ça avait des effets aux États-Unis, et ça avait des effets en Europe, et ça avait des effets partout, et donc c'est de déconstruire les frontières qui sont mises, d'une part, et aussi rester très sensible aux destins singuliers, aux itinéraires singuliers, que le film montre très bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que la machine de l'histoire commence à effacer ces histoires singulières qui donnent aussi, qui montrent aussi les limites de l'histoire nationale. Les choses n'ont pas été vécues de la même manière pour tout le monde. Et puis, je pense que ça doit montrer aussi les inattendus, les choses imprévisibles, les choses qui ne se passent pas comme la logique des États les avait prévues, qui échappent, les petits poissons qui passent.
Merci beaucoup, en tout cas, Françoise Vergès. Le moment est venu, je pense, de dialoguer avec vous. Ceux qui ne veulent pas être filmés se manifestent surtout. Hein, voilà. Donc, on va prendre plusieurs questions, je pense.
Je suis Isabelle Pelot, je viens de San Francisco et j'enseigne justement un peu sur ce sujet. Et juste aussi, je conseille les étudiants Hmong à cette université. Et je suis vraiment contente de voir ce documentaire. C'est vraiment formidable de voir la perspective des Hmong qui disent très ouvertement qu'ils ont senti abandonnés par les Français, par les Américains. Et aussi d'entendre votre discussion. Ce qu'il y a aussi, c'est que c'est tellement dommage qu'il y a vraiment tellement peu de films et d'histoires qui ont été mises pour représenter cette population. Parce que le problème avec un film, c'est comment on représente cette population. Et j'espère qu'il y aura beaucoup plus de films et d'histoires qui vont continuer à se produire. Et s'il y en a d'autres, par exemple, une chose que... ce que je vois par exemple avec mes étudiants, c'est qui contraste un petit peu avec ce que j'ai vu ici, parce que c'est quand même, c'est aussi sur le cours humain de la guerre sur leur génération. Parce que ici, j'ai entendu dire oh, les parents sont allés à l'usine, et puis après, les enfants sont devenus cadres, et on voit l'histoire d'une personne exceptionnelle, le fils d'un général, un peu, je crois, hein, qui avait une maison au Laos, qui a une grande maison en France, il a l'air assez riche quand même, hein, il a de quoi vivre, très bien. Et mes étudiants, par exemple, ou les personnes que je prends, si je collecte les histoires des Hmongs, ben, ils souffrent encore beaucoup du coup de la guerre. Et il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup de dysfonctionnements.
Et ça vous montre le film là, assez, c'est ça hein.
Ça peut donner le sentiment que même s'il y a encore du mal, il y a aussi émotionnel, qu'il y a beaucoup de choses qui vont bien au niveau financier, quoi, au niveau qu'ils ont réussi. Et maintenant, ils ont réussi à être entendus d'une certaine manière, mais comme Françoise dit, bon, il y a tellement de choses plus qui doivent être écoutées, entendues, et c'est aussi, par exemple, au niveau des femmes, vous disiez, il y avait beaucoup de personnes qui étaient veuves, qui sont venues, hein, parce que beaucoup d'hommes sont morts, et ils n'avaient pas de support. Je vois mes étudiants, par exemple, aux autres étudiants asiatiques, américains, ils vivent à 5, 6, 7, 10 dans un petit appartement. Les parents travaillent dans l'agriculture à des kilomètres de là. Ils ne peuvent pas les aider. Ils ne sont pas prêts pour l'université. Ils n'ont pas été formés. Ils sont comme ça. Et les filles, les jeunes femmes doivent... pression de se marier rapidement, où il y a des problèmes des fois qui sont reliés sociaux, qui sont reliés au fait que leur histoire n'est pas écoutée, et non seulement et ceux qui ont réussi à se sauver grâce à leur sacrifice et leur courage, mais ils n'ont pas eu l'aide qu'ils auraient dû avoir afin de se réintégrer plus ou moins bien dans la société ou plus rapidement. Parce que c'est...
Merci. Voilà. Merci beaucoup. Ben, elle va vous répondre et ils vont vous répondre. Hein. C'est une condition donc, de grande fragilité, cette condition diasporique du peuple Hmong aujourd'hui. Hein.
Oui, ce que vous dites est vrai. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité ces jours-là. Il y a des faits divers qui sont rapportés dans les médias. On entend parler de crimes raciste, voilà, donc, d'incitation à la haine envers les mots, surtout dans le Midwest, donc les États du Wisconsin, Michigan, le Minnesota. Donc ça, c'est pas très... Ça aussi, c'est une réalité de la vie diasporique des Hmongs des États-Unis. Mais malheureusement, pour un film, donc, un film comme ça ne peut pas tout épuiser, on ne peut pas tout dire sur... Donc l'intérêt ici, pour moi, mais aussi pour mes collègues qui étaient aussi dans l'équipe, le film lui-même est né d'une conversation, au-delà des disciplines. La fondation qui a financé ce projet-là s'appelle Humanities Without War, c'est-à-dire donc une fondation qui promeut la recherche au-delà des frontières disciplinaires. Et dans ce sens-là, donc, j'avais une certaine vision de ce que je souhaiterais réaliser comme enquête. Mais vraiment, ce que vous voyez là, c'est vraiment le produit du contact avec plusieurs visions différentes de comment raconter l'histoire, comment raconter cette mémoire-là. Et sur ce point-là, donc, il est important de souligner que le profil des personnages, pour moi, fait l'objet même de ce film. C'est-à-dire le film, avant d'être l'histoire des Hmongs ou la mémoire des Hmongs, il s'agit d'abord de... C'est un film sur des individus qui racontent leurs histoires. Donc pour moi, c'est là où il faudrait mettre l'accent. Donc Paul Ricoeur était présenté en début pour rappeler que le récit, donc cette chose symbolique, c'est ce qui permettait à ces individus-là de se constituer en sujet autonome, en voix libre, en voix émancipée, dans le sens où ils sortent leur voix de récits hégémoniques, de récits qui les marginalisent, les effacent, les invisibilisent, s'il y a pas.
Et c'était Ricoeur qui disait que la mémoire narrative permet d'accéder à l'histoire. Donc c'est ce que vous faites au niveau du film avec ceux que vous avez rencontrés.
Ce qui est mis en scène sans cesse, c'est des gens qui sont en conversation. Donc à chaque fois qu'il y a une conscience de son histoire, on assiste à deux personnes ou plus qui sont en conversation, l'historien avec l'historien français avec l'ancien réfugié Hmong. Il y a aussi mon co-réalisateur Cyril Paya qui figure au début, qui est en conversation avec le personnage principal. C'est au contact de ces deux histoires qu'émerge une nouvelle vision de cette histoire partagée. Donc pour moi, ça, c'est très important. Et on le voit tout au long du film, c'est le travail de mémoire se fait au pluriel. Cette mémoire, elle est écrite au pluriel, elle est co-écrite. Et donc on a aussi affaire à des récits officiels et non officiels. On a M. Serge Barcellini, qui était là d'ailleurs. Voilà, donc pour moi l'intérêt, c'était de confronter toutes ces manières de penser l'histoire et de la vivre, et de vivre la mémoire au moment présent. Et de voir comment ceci permet à ces individus de se reconstituer une identité qui leur permette d'exprimer leur appartenance à la France, par exemple, ou aux États-Unis. Comment, à travers ce travail de mémoire, ils parviennent à dire « nous sommes Américains » ou bien « nous sommes Français ».
Et alors, pour compléter la question qui vient d'être posée, est-ce qu'on peut en tirer une leçon de ces exemples-là que vous avez suivis, filmés, interrogés, pour les processus d'immigration et d'intégration en général? Est-ce qu'on peut en tirer une leçon générale ou est-ce que c'est précisément ce qu'il ne faut pas faire?
Ça, c'est... Vous l'avez dit, oui, il ne faut pas tirer. Pour moi, la conversation, la mise en relation, on va dire, la mise en relation de mémoires différentes, d'histoires différentes, de récits différents, permet de sortir de récits singuliers, uniques, comme Françoise l'avait évoqué tout à l'heure, donc de dénationaliser, mais de décoloniser la mémoire. Et dans ce sens-là, pour moi, tous les personnages qui avaient accepté de figurer dans ce film, y compris les vétérans français, leurs descendants, pour moi, c'était d'abord des individus, donc ils parlent à titre personnel. Et c'est pour moi ce qui était le plus important, la force de leur récit vient du fait que c'est un récit qui s'articule, qui se développe sur le plan personnel avant tout. Donc c'est l'historien, par exemple, donc il a dit, oui, il est historien, mais il s'intéressait à cette discipline parce que son père était tué en Indochine, pendant la guerre d'Indochine. Donc le personnel et l'historique sont mêlés. Je pense qu'il y a aussi Christophe de la Patelière qui est aussi avec nous aujourd'hui, qui pour lui, donc c'est un travail d'abord personnel et on ne peut pas le faire sans aussi évoquer l'histoire collective, l'histoire officielle.
Merci beaucoup, François Stagès.
Je pense que oui, vous avez raison, ces personnes, on ne nous montre pas celles et ceux qui ont des difficultés. Moi, quand j'étais en Guyane, j'ai rencontré donc des personnes de communauté Hmong et tout le monde n'a pas. Mais alors, on pourrait aussi dire tout à fait aussi le contraire de ce que vous dites. Si on montrait que des personnes qui ont des difficultés, on ne verrait pas non plus celles qui ont réussi. Donc, c'est plutôt de multiplier les. Ce n'est pas un exemple, ce n'est pas la mémoire des Hmongs. C'est à travers des récits très singuliers. En même temps, quelque chose se dessine de l'histoire collective. Alors voilà, il y a tel lien, tel chef, tel général, tel soldat, tel historien, et ces personnes-là interviennent, et ça crée effectivement une sorte de puzzle. Mais ce n'est pas le définitif, parce qu'on pourrait tout à fait prendre une autre série de personnes. Quelque chose serait certainement se dessinerait de commun, mais ça serait vu quand même aussi d'une autre manière. Si on prend, je ne sais pas moi, une famille Hmong à Saint-Laurent-du-Maroni qui vend, comme j'en ai vu, qui vendent quelques légumes sur le marché, on ne sera pas déjà le fait de vivre à Saint-Laurent-du-Maroni va être très différent du fait de vivre dans une grande ville américaine. Je veux dire, les contacts qu'ils ont, les gens qu'ils ont autour d'eux, c'est les communautés bushinangue, les communautés créoles. Les communautés amérindiennes, et ils sont en plus dans une situation qui est quand même un territoire plutôt encore colonial, enfin je veux dire qui porte sérieusement les traces du colonial. Donc la configuration va tout de suite rendre des choses différentes. Il n'empêche que quand même, ce qui restera, c'est cette histoire où une partie en tout cas du peuple Hmong est pris là-dedans et doit partir, va connaître les camps. Et de camp va connaître l'exil. Donc c'est aussi, je pense, la place du camp est très très importante, ce passage est très important. Donc je pense que c'est aussi ça qu'il faut dire, et donc en fait, comme vous le dites, il faut multiplier les récits et certainement à la fois de montrer la multiplicité de cas singuliers inscrits dans des territoires qui sont eux aussi très différents les uns des autres, et en même temps il y a un territoire qui reste celui-là, qui était le territoire du peuple Hmong dont ils ont été chassés. Donc on a une configuration, une cartographie assez éclatée, et en même temps pas non plus totalement abstraite, quoi, je dirais. Elle est fragmentée, mais elle n'est pas non plus impossible à trouver.
Merci beaucoup Philippe Pégam pour en réponse peut-être à la question aussi que nous posait l'interpellation de cette dame.
Oui, un peu, dans le sens où c'est vrai que je pense qu'il y a une réalité dans cette question, dans le sens où je pense que, encore une fois, au-delà de, non seulement des cas qui sont présentés dans le film, mais aussi je pense qu'il y a tellement enfin je vois personnellement par expérience de gens qui ont vécu des traumatismes comme cela, il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas, qui s'arrêtent au milieu du chemin. Donc ça c'est vrai, c'est une réalité. Il y a qu'à voir par exemple, bon je ne connais pas assez les Hmong en général, mais les Cambodgiens aux États-Unis c'est plutôt un désastre. Hein. Même Vietnamiens, il y en a beaucoup mal tourné, donc il y a quand même beaucoup de tragédies humaines, il y a une réalité, donc à mon avis c'est de multiplier les cas intime, individuelle, personnelle, etc. C'est important, mais c'était aussi important, sans tomber dans le travers du discours ou de l'histoire officielle, en tant qu'historien, avec une, en essayant d'être
un peu empirique
et de regarder un peu avec un peu de distance, on ne peut pas quand même aussi faire l'impasse sur le pourquoi de tout ça. Et moi, bon, c'est mon...
Les causalités, le
Laos a été le pays qui a été le plus bombardé dans l'histoire de l'humanité, hein, plus que le Japon. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui sont là. On est toujours dans une situation où ces pays-là sont quand même largement meurtris. Et maintenant, avec l'exotisme dont parlait Françoise, on a tendance, et ça je ferai le parallèle par rapport à l'Algérie, puisqu'on a commencé par ça, c'est vrai qu'on s'intéresse, on connaît moins ce qui s'est passé là-bas, en Indochine, et l'Indochine a été rapidement transformée en terrain de tourisme exotique, etc. Les deux plus grands films en France qui sont sortis quand les pays sont ouverts, c'est Indochine et... l'amant. Donc évidemment, on est tout de suite rentré dans
le... C'est l'orientalisme dont nous parlait.
Voilà. Donc c'est pour ça aussi que c'est plus difficile de voir qu'il y a aussi beaucoup d'échecs, beaucoup de souffrances qui continuent de perdurer, y compris parmi les communautés qui viennent de ces pays, qui sont en France ou aux États-Unis.
Merci beaucoup, Philippe Egam. Alors, on va prendre encore deux ou trois questions si le temps qui nous est imparti n'est pas encore écoulé. Allez-y.
Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir soulevé l'histoire du peuple mont dont je suis parti. Je me permets aussi de m'introduire auprès de vous parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas. Je suis Yangar, j'ai reçu mon doctorat de 3e cycle à la Sorbonne en 1972 et après mes études en France, je suis reparti au Laos pour servir mon pays dans l'espoir que la paix allait venir. Et j'ai travaillé comme directeur du département de ressources humaines. Et en juillet 1972 à avril 1974. Et puis après, j'ai été sélectionné et choisi par le roi, Sa Majesté, le roi Sisavatana, à devenir membre du Conseil politique national du Laos. Et j'ai tout fait pour amener les deux factions politiques, communistes et non communistes, ensemble à travailler à promouvoir la paix, la réconciliation nationale au Laos. Mais j'ai été très très déçu après que les Khmer Rouges ont conquis le Cambodge au mois d'avril, le 17 avril 1975. Et puis les divisions nord-vietnamiennes ont conquis le Sud-Vietnam le 30 mai 1975. Après les victoires communistes au Sud-Vietnam et Cambodge, au Laos, le Pathet Lao a pensé que c'est le moment de prendre le pouvoir et c'est la raison pour laquelle ils ont pris le pouvoir et nous sommes quittés le pays. Et pendant mes 40 ans en exil, d'abord en France et aux États-Unis, j'ai fait des recherches, j'ai interviewé des centaines de personnes, des anciens dirigeants, des réfugiés, etc., afin de pouvoir conserver les mémoires. J'ai actuellement plus de 1000 audiocassettes dans ma bibliothèque personnelle. Et j'ai pensé, pour le reste de ma vie, je pensais continuer à écrire des livres sur l'histoire des réfugiés hmongs et laotiens du Laos en Thaïlande et de Thaïlande en France et aux États-Unis. Ce que je cherche, des soutiens. Là, c'est ça que je voulais.
Merci beaucoup. Nos amis vont répondre, mais effectivement, oui. C'est une belle entreprise en tout cas. Hein.
Oui, là, je crois que je suis parmi les seuls Laotiens et Hmongs à faire ça. J'ai interviewé les dirigeants, les anciens dirigeants hmong, laotiens, et aussi les diplomates américains, les militaires français, tels que le colonel, comment il s'appelle, Errol, celui qui a écrit « L'Englishie ne répond plus ». Là, j'ai interviewé lui deux ans avant qu'il est décédé. C'est lui qui est allé au Laos pour demander à M. Toby de mobiliser les Hmongs pour aider les Français en Indochine à défendre l'Indochine contre l'occupation japonaise. Et je suis très content que ce soir vous soulevez la question de l'histoire.
Bah, écoutez, merci pour votre témoignage. En tout cas, ils vont vous répondre dans un instant. D'accord. On va rassembler peut-être votre intervention, cher monsieur, avec une ou deux autres questions, et ensuite on conclura nos travaux. Mais je crois qu'il y a encore plusieurs questions. Là, sur la travée de gauche, cher Alexis. Voilà.
Et là, ce monsieur.
Et il y a ce monsieur aussi, voilà.
Bonsoir, je suis M. Desfonds. Toutefois, je connaissais bien la réalisatrice de ce document. Voilà, je pense qu'il ne faut pas comparer la situation de l'Algérie à la situation du Laos. Je ne sais pas si l'armée française était abandonnée par l'État français. Mais je sais une chose, c'est que quand les Français ont perdu la guerre, la bataille de Chine, qui sont partis, ils n'ont pas abandonné les Hmongs. Ils ont laissé un Laos libre, indépendant et démocratique. Ils ont laissé un Cambodge libre, indépendant et démocratique. Ils ont laissé un Vietnam du Sud libre, indépendant et démocratique. Et ils ont laissé un Nord-Vietnam communiste tel que les dirigeants voulaient qu'il soit. Donc la France n'a pas du tout abandonné les Hmongs. En politique, vous savez très bien qu'il n'y a pas d'amis, il n'y a que des alliés des circonstances. Les Américains n'ont pas abandonné les Hmongs. Ils ont recueilli chez eux plus de 100% des Hmongs qui étaient engagés aux côtés des Américains. Il n'y avait pas 400 000 Hmongs qui étaient engagés aux côtés des Américains. Mais les Américains ont recueilli plus de 300 000 Hmongs. Ou même peut-être plus de 400 000 Hmongs. Donc, les Américains n'ont pas abandonné les Hmongs. Le problème, c'est l'avenir des Hmongs, tel que tout le monde souhaiterait. Moi, je suis un Hmong d'origine de Laos. Je pense que l'avenir, le passé, le présent et l'avenir des Hmongs, c'est au Laos. Les Hmongs, je n'ai jamais vu des Hmongs aussi heureux que pendant depuis 1945 jusqu'à 1975. Ils étaient unis dans la guerre, unis dans la paix, unis dans la fidélité à la royauté. Aujourd'hui, je ne sais pas. Les Hmongs sont très divisés, je le sais. Je crois que parmi les Hmongs qui étaient ici, ils le savent, que les Hmongs sont très divisés. En France, en Amérique aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des Hmongs qui se battent contre ces régimes au bientôt de Hitler-Stalinienne. Il est bon qu'ils collaborent avec ces régimes et qu'ils tournent le dos à leur passé. Il y a des mots qui ne disent rien. Donc, il y a des mots qui sont chrétiens, il y a des mots qui sont non-chrétiens et qui ne s'entendent pas. Donc, je ne sais pas où est l'avenir des mots en France. Mais je souhaite que tout le monde retourne aux sources. J'ai vu le film, j'étais très content parce que un Hmong est un ennemi qui retourne toujours aux sources. Je souhaite que tous les Hmongs retournent au pays à condition que le pays redevienne une démocratie, que tout le monde puisse vivre ensemble en paix. Merci.
Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a encore une ou deux autres questions.
Bonsoir,
dans ce documentaire, à aucun moment vous parlez encore de ceux qui sont encore dans la jungle. Et donc, pourtant, il y a Cyril Payen avec vous, qui a travaillé avec vous.
Merci. Et je crois que vous avez une dernière question tout au fond. On va faire deux questions, ouais. Merci Alexis.
Bon, merci. Je suis un monde, donc né au Laos, arrivé en France très jeune. Donc je fais partie de ce qu'on appelle de ces jeunes de génération de transition. Voilà. Je suis ingénieur au CNRS, donc en France. Je suis très content de votre présence ce soir, Madame Safois, parce que vous m'avez envoyé quelques mails il y a quelques années, mais justement, je n'étais pas disponible. Donc, on a eu juste échangé et puis on ne s'est pas vu. Voilà. Donc, je m'excuse aussi de mon absence parce que j'ai aussi d'autres préoccupations par ailleurs. Je suis très content aussi des différents témoignages jusqu'à présent, tout simplement parce qu'on fait mémoire des mondes, de nos ancêtres, de nos parents et grands-parents, mais aussi la mémoire, ça fait penser aussi à l'avenir. Et donc, aujourd'hui, l'avenir, c'est peut-être nos jeunes, parce que nos jeunes sont déracinés, ils savent pas, ils ont perdu un peu leur identité. Mais moi, je suis confiant et je sais qu'on peut être 100% mon, comme 100% français, comme 100% américain. Alors, pour nos jeunes, pour qu'ils puissent se reconnaître, je pense que c'est par des actions comme les vôtres, ce soir, tous les quatre, vous parlez des mondes, et puis nos enfants de deuxième génération, ils vont se poser la question, parce qu'arriver à un âge où ils vont rechercher leurs sources, un peu comme dans votre reportage, le monsieur, effectivement, il a pu retourner aux sources. Pourquoi? Parce que, madame le professeur de Los Angeles, San Francisco, vous avez dit, parce qu'il a pu réussir un peu. Et quelqu'un disait, un aveugle ne peut pas guider un aveugle. Et donc, pour qu'on puisse se guider entre nous et ne pas se disperser, c'est aussi s'ouvrir et s'intégrer, mais s'intégrer pleinement. Donc je vous encourage à continuer tout simplement vos actions pour nous, jeunes et futurs, peut-être, nos descendants. Merci.
Merci beaucoup, monsieur. Et on va prendre une ultime question.
Merci. Bonsoir. Alors, cette question s'adresse à Madame Vergès. Tout à l'heure, quand vous avez évoqué sur les stèles et les monuments, vous avez évoqué sur, si j'ai bien compris, les conséquences ou les effets secondaires de déconstruction ou de dénationalisation. Je voulais vous poser la question, est-ce qu'il vous serait possible de décrire davantage et de développer de développer les dangers qui pourraient nuire à la reconstruction de nos identités. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les monuments, les stèles sont dans l'air du temps et nous sommes perdus. Et nous sommes, et j'ai très envie de connaître votre point de vue à ce niveau.
Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a dû malheureusement renoncer à quelques dernières questions, mais le temps là vraiment nous est compté. Un premier tour de réponse peut-être, Françoise, comme vous êtes interpellée. On commence avec vous.
Ça marche?
Ah, je vais vous donner le mien.
Oui, très rapidement, ce que j'entends par là, c'est ce n'est pas, évidemment, je ne suis pas contre de manière complètement obsessionnelle, mais ce que je vois, c'est que parfois, en tout cas ce que j'ai vu en France, l'État va répondre à des demandes d'inscription, de transformation de l'histoire en proposant des stèles, en multipliant les stèles. Il y a une gestion esthétique de la mémoire qui va passer, on va vous donner une stèle. Alors les stèles se multiplient sans qu'il y ait la relation à justement quelque chose de vivant, quelque chose qui va ensuite se transformer, quelque chose qui va interpeller tout le monde. Donc je crains, j'ai vu déjà les faits, de répondre à une demande citoyenne, civique, demande de reconstruction de la chose commune, par la réponse, on va multiplier les stèles et les monuments. Notamment, par exemple, c'est aussi du coup, la fragmentation de toutes les mémoires. Puisque du coup, chaque groupe va vouloir, je veux dire, si je suis un groupe, mais pourquoi vous avez une stèle et pas moi? Mais moi, je veux aussi une stèle. Donc on va multiplier les stèles, mais le passant, la personne qui passe, comment, qu'est-ce qu'elle va-t-elle lire? Va-t-elle regarder? Va-t-elle se demander, mais en quoi ça me concerne? Moi, je l'ai vu par exemple pour la question de l'esclavage ou du colonialisme, multiplier les stèles, ça ne fait pas avancer la connaissance. Ça n'a pas fait avancer le savoir là-dessus. Ça n'a pas interpellé sur ce que ça signifiait, ce que ça signifiait pour nous aujourd'hui. Donc, ce n'est pas qu'il ne faut absolument pas de stèle, mais c'est qu'une stèle en elle-même, un monument, ça n'est pas accompagné d'un vrai travail, comme par exemple ce soir, comme voilà, où on échange, comme une multiplication aussi sur toutes les formes, que ça passe par l'éducation, que ça passe aussi par l'enseignement supérieur, qu'il n'y ait pas, par exemple, aujourd'hui, dans les universités françaises, le département d'études coloniales et postcoloniales, qui ferait connaître l'histoire des mondes, entre autres, par exemple. Qu'il n'y ait pas fait que, finalement, ces stèles, comme je disais, deviennent des pierres tombales, parce que, finalement, on inscrit des noms, mais sans leur redonner, justement, la place réelle du vivant qu'ils ont, et que pour revenir à ce que disait monsieur, comment ça va nous servir dans le futur. C'est-à-dire que ça pose aussi ce qu'on doit comprendre, c'est comment a-t-on accepté ça? Qu'est-ce qui a fait qu'on a accepté ça dans le passé? Qu'est-ce qui a construit le consentement à des crimes, à des brutalités, à des cruautés? Pour que nous ne recommencions pas aujourd'hui, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui que nous laissons faire comme ceux d'avant ont laissé faire? Donc on est, parce que sinon je passe devant le monument, je dis ah bon, ah oui c'est triste, c'est vraiment triste, etc. Puis ça ne m'interpelle pas, moi je continue mon monde, et pendant ce temps-là, il y a des milliers de réfugiés qui meurent aux frontières de l'Europe, ou d'autres choses. Donc pour moi, c'est, si vous voulez, c'est la question, c'est que ça doit faire partie de quelque chose de beaucoup plus large, qui interroge beaucoup plus, et pas simplement les descendants de monde, ou les descendants de vétérans français, mais toute la société française, pour qu'effectivement quelque chose se transforme.
Et alors en quelques mots, la question de l'avenir, les communautés posées par plusieurs de nos intervenants, qu'est-ce que vous y répondez, vous, Françoise, à l'heure qu'il est, quelle perspective d'avenir peut-on dessiner, et est-ce que c'est vraiment le Laos qui constitue le modèle du bonheur monde, comme ça a été évoqué par personnes.
Je pense que la question que le Laos, l'objectif de transformer le Laos en pays démocratique est tout à fait un objectif tout à fait absolument on ne peut que le souhaiter, souhaitable, et que, évidemment, pour que des mondes puissent vouloir y retourner, mais aussi il y a ceux qui ne voudront pas retourner. La question étant, pour moi, c'est une question à la fois sociale, mais aussi économique, comme rappelait Madame dans la salle, et une question aussi de qu'est-ce qu'on va faire pour garder la pluralité de mémoire, de culture, de langue aussi, tout en étant quand même, on est quand même ensemble. Moi, je ne vais pas devenir monk, ni Sapois, mais Sapois a fait un film magnifique, et nous, on en parle. Donc, c'est ça la question. C'est cette question de partager. On n'a pas besoin d'être du même, surtout pas. Et c'est justement, c'est plutôt l'avenir, c'est cette question de construire sa pluralité, constante, qui est constamment remise en question, d'ailleurs, mais pour constamment négocier comment on va être ensemble.
Négocier du commun, c'est une belle conclusion en tout cas. Philippe Pégane, quelques mots, et puis on laissera la parole justement à sa foi, puisque c'est elle qui nous a rassemblés ce soir.
Oui, donc je voulais en fait rebondir un peu sur ce que Françoise vient de dire, et en fait, je trouve que les questions qui ont été posées, je suis tout à fait d'accord que c'est l'avenir qui... Les jeunes vont jouer un rôle très important, et je pense que le travail de monsieur qui est de maintenir et de rassembler le maximum d'informations, d'archives, dans le contexte même de reconstituer et réécrire, ou pouvoir écrire l'histoire des manques dans leurs différentes expériences, à mon avis, c'est essentiel. Et ce que vous faites, monsieur, c'est à mon avis très important pour les futures générations. Et la question un peu qui allait aussi par rapport à votre point de vue, par rapport à ce qui se passe toujours au Laos, mais pas seulement au Laos, au Vietnam. Moi, quand j'ai vécu au Vietnam, j'allais très souvent dans certaines régions Mok Chau, Lai Chau, Tang Hua, avec où il y avait des Hmong. Et je voyais comment les Vietnamiens, les Kinh, les gens d'en bas, considèrent les Hmong. C'est très paternaliste, c'est très... Il n'y a pas beaucoup de différence avec la façon avec laquelle les Français traitaient les Vietnamiens à l'époque coloniale, je trouve. Et donc, de ce point de vue-là, voilà, c'est important, à mon avis, d'engager les jeunes générations à aller au Laos, au Cambodge, au Vietnam, enfin au Laos et au Vietnam, en l'occurrence, pour les Hmong. Et même malgré les difficultés, malgré le fait que les pays ne sont pas aussi ouverts que ça, parce que progressivement, c'est important de reconnecter, renouer le fil, et surtout, à mon avis, contre la tendance qui est en train de continuer, malheureusement, qui fait que les Hmong risquent de se retrouver comme des tribus folkloriques pour les touristes. Ce qui est un peu le cas actuellement. Et donc, à mon avis, ce travail mémoriel, ce travail de connexion, de reconnexion est essentiel au travers de toute la diaspora. Et c'est, à mon avis, comme disait François, au-delà même du cas Hmong, c'est aussi quelque part d'intégrer le problème, la question, l'histoire des Hmong dans l'ouverture et j'espère la démocratisation progressive de ces sociétés. Parce que c'est pas possible de continuer avec ce système complètement centralisé et qui refuse de reconnaître les diversités. Voilà.
Merci beaucoup en tout cas Philippe Pékin pour vos analyses et votre regard hein, sur le film de Safo. Merci beaucoup Françoise Vergès hein, de nous avoir aidé à comprendre justement la vraie situation de cette diaspora. Et c'est à vous peut-être qu'on va poser la dernière question. Vous êtes optimiste pour l'avenir des Hmong en France, mais aussi dans d'autres diasporas que nous avons évoquées, et notamment celle que vous connaissez bien puisque vous y vivez, qui est la diaspora des États-Unis.
On a fait ce film, et c'est un effort collectif, donc c'est pas mon film, c'est pas uniquement mon film. Le film est né de plusieurs échanges très importants, de plusieurs conversations au-delà des frontières, de toutes sortes, frontières culturelles, nationales, interdisciplinaires. Donc oui, je suis optimiste, je pense que ce que nous avions essayé de faire dans le film, c'est d'ouvrir les frontières, d'imaginer la possibilité de réécrire l'histoire à plusieurs. Et l'écrire à plusieurs ne veut pas dire viser un consensus forcément sur l'histoire. Donc le consensus n'est pas forcément la finalité de cette mise en relation de voix différentes, de micro-récits différents, d'histoires, de récits personnels différents. Mais c'est plutôt de valoriser la voix de tout le monde, de viser la création de cet espace hospitalier dans lequel la mémoire de populations marginalisées historiquement peuvent être entendues et peuvent être aussi visibles dans l'espace public. Et là, dans le film, il n'y a pas un consensus. J'espère que c'était évident. Il n'y a pas de consensus. Forcément, et c'était, je pense que c'était important de voir. Donc il y a Monsieur Tuchoua Lifong nous a rappelé justement qu'il y a une pluralité de vision de cette mémoire Hmong. Oui, elle est divisée, mais dans un sens, je pense que ça produit des tensions productives, si on peut dire, des tensions importantes pour justement éviter l'enfermement de ces mémoires dans des récits réducteurs, mais des récits oppressants, des récits qui excluent, donc des récits exclusifs. Donc, ceci dit, dans le film, nous avons essayé d'imaginer des techniques de narration qui nous aident à éviter justement les parcours linéaires ou bien les schémas linéaires. Donc, la narration pour moi était au devant de ce travail-là. Comment raconter? Donc, comment raconter? Donc, en ce qui concerne ma position, pour moi, je me considère toujours
en conversation avec cette personne qui avait accepté de partager leur témoignage. Je suis en conversation, je me mets en relation avec elles, j'essaie d'imaginer leurs univers, mais à travers vraiment ce schéma dialogique, ce schéma conversationnel.
En tout cas, merci beaucoup. Votre film réussit son coup, si j'ose dire, hein, puisque c'est un vrai dialogue qui participe au décloisonnement des mémoires, et le décloisonnement des mémoires, c'est un des axes stratégiques de ces conférences imaginées par Alexis Corbière. Merci donc au Musée d'immigration, merci à vous trois, et on se retrouve donc dans un mois, le 13 avril, pour parler d'un tout autre sujet. Alors lui, c'est un sujet d'inquiétude franco-français, mais très important, c'est l'avenir de l'école, avec Natacha Polony et Guy Coq. Merci à tous, et vous pouvez retrouver donc ce film, le film de cette séance de ce soir, en vous connectant sur le site du Musée d'immigration, où vous pourrez vous faire envoyer donc le DVD de Hmong Memory at the Crossroads. Merci à tous.